CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Le nouveau numéro de Dire Lot est déjà chez votre marchand de journaux avec des beaux articles pour découvrir notre département. Nous serons avec Vincent Besserve, le directeur de la publication, qui nous dira les grandes lignes de ce nouveau numéro que vous pouvez acheter dès maintenant si vous êtes vraiment impatient et que vous passez devant un marchand de journaux. Mais d'abord, à partir d'aujourd'hui, il y a un colloque sur l'archéologie à Cahors qui démarre. Et bien, nous en parlons avec notre première invitée. Alors attention, l'interview a été enregistrée il y a deux jours, donc forcément, quand on parle de jeudi et de vendredi, c'est aujourd'hui et demain. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure du mag. Un demi-siècle d'archéologie à Cahors, c'est ce que l'on vous propose de découvrir dans un colloque qui va se dérouler justement jeudi et vendredi à l'espace congrès Clément Marot. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Pour qui? Sachant qu'il y a aussi une exposition, alors pour y voir quoi? Voilà toutes les questions que nous allons poser à Abel Rachi, élu délégué à la médiation du patrimoine. Bonjour Abel Rachi.
Bonjour.
Un colloque d'archéologie. C'est depuis les années 70 qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des trésors sous terre?
En tout cas, c'est l'inventaire qu'on va dresser. Sur les 50 dernières années, on se rend compte qu'on a déjà beaucoup de choses à présenter. Et c'est tout l'intérêt de cette manifestation.
Alors pour les gens qui sont nouveaux à Cahors, qu'est-ce qu'on a découvert au point de vue archéologie alors? Il n'y a pas que les remparts finalement, si je comprends bien.
Absolument pas. Pour citer un exemple récent, la fouille des allées Fénelon.
Ouais.
Le sarcophage ici près des locaux de la radio et du colloque. De nombreux éléments seront envisagés durant ces deux jours de colloque.
Est-ce qu'il y a encore des recherches qui sont effectuées et où actuellement?
Oui, il y a toujours des recherches qui se font sur la ville. Le site d'Enedis, du prochain siège d'Enedis dans la plaine du Pal, fait partie des recherches en cours. Et la plaine du Pal sera un des points évoqués lors du colloque.
Alors la plaine du Pal, elle se situe où celle-là?
Derrière Gamme Vert, au niveau de Gamme Vert, de l'espace culturel.
Là où il y avait l'ancienne laiterie, c'est ça?
Oui.
D'accord.
Tout à fait, absolument.
Et là, on a trouvé...
Un peu plus haut, mais oui, on a trouvé... On est sur l'ancien local d'Emmaüs.
Ouais.
Voilà, qui est, suite à sa disparition, des fouilles ont été menées et donc sont en cours pour... On y trouve des éléments archéologiques.
Est-ce qu'ils vous ont dit déjà ce qu'ils ont trouvé?
Non, ça sera présenté, je n'ai pas besoin de dire plus, mais ce sera effectivement présenté le jour du colloque.
Alors dans ce colloque, justement, pendant deux jours, hein, vous ne lésinez pas sur, sur la culture là, cette fois-ci, il y a tellement de choses à dire que vous consacrez deux jours entiers sur l'archéologie, rien qu'à Cahors.
Justement, je voulais revenir sur cet élément-là. C'est une idée un peu régionale de pouvoir faire un focus dans une ville sur tout ce qui a pu être découvert en matière archéologique. Les liens noués par le passé ont permis aux personnes au niveau régional de se dire Cahors est quand même un bon candidat pour lancer cette initiative. Et donc Cahors est la première ville qui va pratiquer ce genre d'événement. On commence, donc on découvre cette formule-là où finalement on reprend nos 50 dernières années pour relater, tant au public averti qu'aux cahorsiens qui le souhaiteraient, toutes les découvertes qui ont émaillé ces 5 décennies.
Parce que donc c'est fait en collaboration avec le département,
oui,
avec l'État.
Oui, tout à fait.
Et du coup, quand vous dites d'autres villes, c'est d'autres villes du Lot ou ça va être fait
d'autres
en France?
D'autres villes d'Occitanie.
D'Occitanie.
Absolument, tout à fait. C'est un partenariat aussi avec l'INRAP, l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives, et la préfecture de région, la DRAC, derrière, qui souhaite développer cette possibilité, ce colloque, si ça fonctionne, dans notre ville d'Occitanie à l'avenir.
Comment on se rend compte qu'il y a un trésor, on va dire, archéologique sur un terrain? Ça veut dire que quand on veut modifier un terrain, il faut absolument qu'il y ait déjà des fouilles d'archéologie dans une ville comme Cahors?
Alors, pas absolument, mais dans la ville de Cahors, effectivement, les fouilles sont assez fréquentes et les cadurciens le savent bien parce que notre patrimoine, notre histoire est longue. Donc nous avons la chance de pouvoir découvrir de nombreux éléments un peu partout dans la ville de Cahors.
Qu'est-ce qu'on a appris avec ces fouilles archéologiques alors au final? Depuis 50 ans.
Oui, depuis 50 ans et même en amont. L'intérêt, c'est de savoir comment vivaient les générations précédentes, où elles vivaient, et de découvrir des éléments qui étaient encore inconnus jusque-là, en poussant, en interprétant aussi les éléments archéologiques que nous y trouvons.
Alors comment vous avez établi justement ce colloque? Parce que là, vous faites venir beaucoup de monde. Quel était le but que vous êtes fixé sur ces deux jours?
dans la logique du partenariat, nos intervenants viennent d'un peu partout. Nous avons des agents municipaux qui participent à la mission d'archéologie, des personnes concernées par l'archéologie au niveau départemental et aussi des personnes qui sont sur le plan régional concernées par nos problématiques. Donc c'est ce partenariat qui permet, qui a permis d'établir le programme qui vous est proposé.
Quels sont les invités, pardon, qui sont... alors, je ne vais pas dire qu'ils sont plus importants que d'autres, je cherche un petit peu les mots, mais qui ont un impact sur dans lequel le sujet a un impact peut-être plus que les autres, qu'il faudrait peut-être ne pas manquer. Parce que c'est pas évident de réserver sa journée, il faut vraiment être un gros passionné. Donc...
Je ne me prononcerai pas sur ce point-là, ce n'est pas à moi de hiérarchiser, mais effectivement, le programme est disponible en ligne, l'inscription est gratuite et se fait donc de façon dématérialisée. Et donc chacun pourra aussi, par les thématiques, tout autant que par la qualité des intervenants, privilégier les moments qui l'intéressent le plus.
Parce que là, vous parlez effectivement des fouilles dans les allées Fénelon, dans la plaine du Pal, les monuments publics. Alors évidemment, ça, on savait très bien que Cahors, on était rempli. Sur l'architecture civile médiévale, Comment on peut faire pour venir à ces deux journées de colloque?
On s'inscrit tout simplement sur Internet. Comme je vous disais, l'inscription est gratuite et on peut donc ensuite participer à ce colloque qui aura lieu à l'espace Clément Marot.
Quand on réserve pour la journée ou on choisit le créneau horaire? Comment
c'est
ça se passe?
C'est une réservation générale, mais on peut venir ensuite comme on le souhaite.
D'accord. En parallèle à ça, il y a une exposition qui va être présentée au rez-de-chaussée de l'espace Clément Marot. Alors, je rappelle pour ceux qui ne font pas le rapprochement, l'espace Clément Marot, c'est le rez-de-chaussée de la maison des associations, hein, place Bessières. Qu'est-ce que c'est comme exposition?
Alors, tout le monde ne peut pas venir, effectivement, pendant deux jours de colloque. Le propos peut être parfois un peu complexe. Il était important pour nous que la médiation se fasse envers tous les publics. Donc, cette exposition a été pensée comme un complément au colloque qui s'adresse à la fois au grand public durant les week-ends et au public scolaire pour que les élèves, les étudiants cadurciens se rendent compte de la richesse de notre patrimoine archéologique. Donc, cette exposition sera ouverte les week-ends pour le grand public et la semaine pour les scolaires, afin que chacun découvre tous les éléments que nous mettrons en avant durant ce colloque.
Quand est-ce qu'on pourra voir des objets qui ont été trouvés dans ces fouilles archéologiques? Est-ce que c'est prévu un jour? Ou est-ce qu'il y en a peut-être dans cette exposition?
Alors, il y aura des photos, des éléments là-dessus, mais on peut aussi bénéficier dans les musées, donc le prochain musée municipal, des éléments archéologiques découverts lors de fouilles.
Comment on peut valoriser ça? Notamment l'été, pour les touristes qui viennent. Est-ce que ça ne mériterait pas d'être mis plus en avant, toute cette histoire qui est riche? Comment vous imaginez ça, la ville de Cahors?
Plusieurs éléments existent déjà en termes de médiation. Nous proposons des visites à la fois pour les touristes l'été, mais aussi bien sûr pour les habitants de la ville et du Grand Cahors. Nous éditons aussi une plaquette, puisque donc le travail d'archéologie est un travail au long cours, donc annuellement, il y a une plaquette qui est éditée au niveau de la strate municipale. Toute la production de la ville de Cahors est aussi disponible sur le site régional. Donc, tout est mis à disposition du public qui souhaite s'en saisir.
Rendez-vous donc ce week-end, hein, c'est même jeudi et vendredi pour les colloques. Et puis l'exposition, alors l'exposition c'est sur deux week-ends, hein, du vendredi jusqu'au dimanche, celui qui arrive du 19 au 21 et l'autre d'après du 26 au 28 novembre. Et c'est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h. Et puis on invite, de toute façon les écoles sont déjà au courant qu'ils peuvent venir.
Absolument.
Ils ont même pris leur réservation, j'imagine, en plus.
En cas de question, n'hésitez pas, la Maison du Patrimoine est à votre disposition pour vous répondre.
Et elle est où cette Maison du Patrimoine?
En plein centre de la ville, et les coordonnées sont disponibles sur le site de la ville.
Et en tout cas, donc c'est cahorsaglo.fr. Non, c'est oui, c'est ça le site. Hein. Et puis sinon, il y a aussi Cahors célèbre ses patrimoines.gymdaufry.com. Et puis vous aurez tous les renseignements nécessaires. Et on vous conseille vraiment d'aller voir et de vous renseigner sur tout cela. Il se passe vraiment des choses à Cahors quand même au niveau sous terre et ça ressort bien quand même. Hein. Il y en a un petit paquet. Merci Abel Rachi.
Merci à vous.
Et puis donc ça a commencé, hein, donc c'est aujourd'hui le premier jour de ce colloque, mais vous pouvez toujours vous inscrire pour cet après-midi par exemple ou pour demain, cahorsaglo.fr. Et puis l'exposition ce week-end et le week-end prochain, on le rappelle quand même. Il est de retour chez votre marchand de journaux, Dirlotte, pour le mois de novembre et le mois de décembre, le dernier numéro de l'année. Bonjour Vincent Besserve.
Bonjour.
Directeur de la publication de Dirlotte. Oui, c'est effectivement le dernier numéro de l'année, ça y est, hein, ça passe vite, mine de rien. Hein.
C'est ça, une année de plus, on est déjà sur les numéros de 2022.
Bon, évidemment, on ne va pas te demander de quoi il va être sujet, ça sera la bonne surprise, bien sûr.
Exactement. Hein,
on va la garder quand même, la surprise. Par contre, dans ce numéro-là, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'on parle autant de... Alors, on va expliquer ça un petit peu, mais on parle autant de choses plus naturelles que de projets plus dans la ville. Par exemple, j'ai vu que vous avez fait une enquête sur Prayssac.
Exactement, Prayssac, où on est allé poser nos valises pendant quelques jours pour s'immerger et humer un petit peu l'atmosphère de cette ville. Et l'idée était de mettre en avant justement toutes les initiatives qui peuvent être menées tant au plan commercial qu'associatif, culturel, sur le Prayssac et son pays. On a fait de belles rencontres, et notamment la responsable du cinéma de Prayssac, qui est un cinéma qui a réussi à faire jusqu'à 500 entrées par semaine dans la période de Covid. Voilà, donc il y a de la vie en zone rurale et Prayssac en est un bel exemple.
Donc les acteurs sont mis en valeur et évidemment vous parlez du futur de Prayssac.
Oui, un numéro qui intègre de la prospective sur Prayssac, tout comme on l'a fait sur un deuxième dossier dont on va sans doute parler, sur Cahors.
Eh bien exactement, bah, parlons-en alors, puisqu'on y est effectivement. Cahors, là aussi, vous êtes, j'allais dire, vous avez posé vos valises à Cahors, enfin c'est pas très compliqué.
Ouais, on n'était pas loin.
C'est pas loin. Là aussi, c'est, là vous intéressez pas trop à l'histoire, mais vraiment, vraiment au vrai futur de Cahors.
Bah, l'idée c'était d'essayer de relater un petit peu tous les projets qui sont en cours sur cette ville. On parle de reconquête du centre-ville, de réappropriation par les habitants de ce centre-ville. C'est vrai qu'il y a quand même depuis plusieurs années pas mal de rénovations qui ont été accompagnées, de dynamiques qui se sont mises en place et aujourd'hui de perspectives pour les années à venir au travers notamment de la rénovation du palais de Via qui est le gros projet des années à venir et sur lequel on est rentré, enfin tout est écrit dans le dossier, mais sur lequel on s'est consacré pleinement pendant les deux mois qui ont précédé la sortie du magazine.
Alors, vous êtes arrêté sur le palais de Via, mais c'est vrai qu'il y a plein de bâtiments inoccupés qui sont maintenant repris effectivement en charge, si je puis dire, pour que ça soit effectivement occupé. Voilà, ça c'est pour l'avenir. Maintenant, on va parler plaisir aussi. Tiens, ça fait du bien. Alors là, il faudrait, dans ce numéro, vous expliquer le projet d'une vigne qui est assez particulière, qui est dans le Grand Figeac. Alors, oui. Particulière parce que c'est pas une vigne comme les autres.
Ben non, d'autant que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de vignes, puisque le Quercy était planté jusqu'au phylloxéra. Mais depuis, on a vu la vigne disparaître et se concentrer sur la zone sud de la vallée du Lot principalement. Là, on est parti à Figeac, du côté de Figeac, où un projet a été mené au travers d'une société coopérative d'intérêt collectif, une SCIC, avec une multitude de sociétaires qui se sont investis dans un projet de replantation de différents cépages sur le pays de Figeac, vers le lycée de la Vinadie. Et l'idée est de recréer un vignoble, enfin de redonner vie au vignoble d'antan, tout simplement.
Donc ils veulent refaire du vin.
C'est ça, et la première cuvée est sortie.
Ah, et la première,
sur
oui.
Un millésime extrêmement compliqué, parce que ça fait 2-3 ans qu'on a des aléas climatiques qui imposent beaucoup de contraintes et qui limitent dans les possibilités. Mais une première cuvée est sortie. On espère que d'ici 2-3 ans, toute la gamme des vins soit disponible.
Ça veut dire qu'il y a un sacré paquet d'hectares dedans?
Non, on n'est pas sur des grandes surfaces, ça reste confidentiel, mais on doit pouvoir imaginer une déclinaison de cuvées sur ce territoire-là. Mais c'est une belle renaissance que celle des vignes figeacoises.
Et ben vous saurez tout dans le numéro de Dirlotte. Et puis, puisqu'on parle de vin, justement, et de phylloxéra, c'est quoi la phylloxéra?
Ah, c'est une maladie qui a condamné la vigne il y a bien longtemps, 1860. Peut-être que je me trompe sur la date, je ne l'ai plus.
Bon, en tout cas, il y a longtemps, oui.
Mais qui a vu disparaître finalement la plupart des vignes françaises. Et ensuite, on a replanté pour connaître le vin tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ce qui était intéressant, c'est de mener un dossier qu'on a réalisé en partenariat avec la Société des études du Lot, qui vient de sortir un livre sur la véritable histoire des vignobles de Cahors et plus largement du Quercy, puisque le territoire est quand même plus vaste.
À partir du 8e siècle, hein, quand même.
Ouais,
on a remonté les archives.
Hein. Et jusqu'au phylloxéra, pour le coup. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est sur une histoire très, très factuelle, non romancée, qui va peut-être faire tomber quelques mythes, mais qui, pour le le coup, relate la réalité, ou en tout cas au plus proche de la réalité, de ce qu'a été ce qu'ont été les vins de Cahors et du Quercy.
On aurait créé des légendes, en quelque sorte, autour du vin de Cahors.
On peut parfois habiller un petit peu les choses.
Habiller un petit peu les choses, c'est ça, sympathiquement dit. Et puis en plus, c'est un livre que l'on peut trouver chez le libraire. Et si vous hésitez encore à savoir si vous pouvez le lire, eh bien, intéressez-vous à cet article où on s'intéresse effectivement à cette histoire des vignes et des vins du Quercy. Autre chose qui est un peu plus... on reste un petit peu dans le naturel, d'ailleurs, entre parenthèses. Et là, c'est vrai que c'est un sujet... à mon avis, qui a dû vous demander pas mal de recherches. Parce que quand on parle de forêt lotoise, eh bien, c'est qu'il y en a un petit paquet quand même de forêts dans le Lot.
Oui, on a un gros réservoir naturel ici dans ce département. Et il faut savoir que le taux de boisement du département du Lot est de 41% supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est pour dire qu'on a quand même un territoire très boisé avec une multitude de propriétaires, plusieurs dizaines de milliers d'ailleurs. Là, on peut avoir quelques mètres carrés, je vais dire, ou quelques hectares. Mais c'est un dossier assez intéressant et immersif qui nous a permis d'aller à la rencontre de celles et ceux qui justement veillent à ce que la diversité soit maintenue et qu'on n'ait pas une sorte de monoculture d'arbres. Donc on découvrira ce qu'est la forêt lotoise au travers des hêtres, au travers des chênes bien évidemment, mais aussi des pins maritimes, et on en compte beaucoup, ça peut paraître surprenant. Donc on est allé à la rencontre de ces gens-là, et de belles rencontres.
Et ce qui est intéressant dans cet article, mais là vous en découvrirez un petit peu plus, c'est que ce sont quasiment dans le Lot, c'est que des forêts privées. Alors ça, c'est étonnant d'ailleurs.
Ouais, il y en a énormément, ouais. C'est la grande dominante, et puis une diversité de forêts entre ce qu'on peut trouver en Bourriane, ce qu'on peut trouver sur le Cos, puisque le Cos c'est la majeure partie de la forêt lotoise, et puis dans le Ségala, allié aux confins de l'Aveyron et de la Corrèze et du Cantal, il y a une belle diversité et un dossier qui à mon sens est intéressant.
Voilà, vous le saurez en disant dire Lot de ce mois-ci, enfin de cette fin d'année, on va dire plus précisément. J'envie votre journaliste qui a été s'immerger dans le parc animalier de Gramat pour faire un soigneur animalier d'un jour.
Soigneur d'un jour, ouais, c'est quelque chose qui est une offre qui a été médiatisée au travers de, je crois que c'est le zoo de la Flèche notamment, qui a été pas mal médiatisé à la télévision, avec des offres d'immersion comme ça et de rencontres avec les soigneurs et au plus près des animaux. Et le parc animalier de Gramat a mis en place cette proposition qui se fait pour un ou deux enfants, donc on est vraiment sur quelque chose, c'est plutôt pour des enfants, mais il y a des grands enfants qui peuvent s'intéresser à ça, où on va vivre le quotidien d'un soigneur dans les soins qu'il apporte, dans l'alimentation qu'il amène à chaque animal, et ça permet de découvrir aussi toutes les espèces qui sont recensées dans le parc, des animaux qui sont, c'est aussi un conservatoire d'animaux, ce parc animalier, donc on prend quelques frayeurs quand on s'approche tout près des loups ou des ours, et on en apprend beaucoup quand on comprend pourquoi certaines espèces sont protégées ou justement des espèces que l'on chasse parce qu'elles elles nuisent à l'équilibre de l'écosystème.
Voilà. Enfin, que l'on dit en tout cas.
Que l'on dit, mais pour certaines qui sont arrivées notamment des États-Unis, certaines dérégulent finalement ce qui était la faune existante, et c'est assez intéressant d'aller le décrypter, le comprendre auprès d'un soigneur formé et diplômé pour en parler.
Le reportage en immersion est à lire. Donc, rencontre aussi avec une fille qui s'intéresse à l'art primitif. Alors, j'ai dit primitif, mais je crois qu'il y a un autre terme en fait.
C'est le bon terme, mais c'est aussi l'art pariétal.
Pariétal, voilà.
Audrey Rocaro, installée à Montcuq, qui est artiste et qui, au-delà de ses créations, propose également des ateliers d'initiation. Elle travaille tout simplement sur les traces laissées par les premiers hommes dans les grottes. Et elle a été séduite par des découvertes de cavités il y a une dizaine d'années. Et ça l'a inspirée, ça lui a donné envie d'essayer de travailler les pigments. Et aujourd'hui, elle fait tout un travail autour des pigments pour essayer de retranscrire l'atmosphère telle qu'elle l'a perçue ou telle qu'elle imagine que les hommes premiers le percevaient, et également quand ces hommes premiers sortaient et voyaient la voûte céleste sans avoir d'explication scientifique. Elle essaie de le retranscrire dans un travail assez figuratif qui est intéressant et qui mérite le détour à Montcuq, à voir en allant vous balader. Son atelier est ouvert et on peut même y participer.
Et ben, c'est ce qu'on appelle une passionnée en tout cas, hein, ça c'est sûr.
Exactement.
Et puis Biodire Lot, c'est aussi les bonnes adresses hein, du Lot, forcément. Alors, bonnes adresses déjà dans un premier temps avec les restaurants et notamment à Martel.
Oui, où là on est allé sur une table auberge qui est tenue par une famille qui est initialement plus connue dans l'univers de la culture de la noix du Périgord et qui possède deux restaurants, un établissement en centre-ville, le Petit Moulin et la Table du Moulin, qui est une table juste à côté du moulin historique qui est toujours en activité et qui est une très très belle découverte d'adresse.
Et puis le domaine des Gravelous aussi.
Les Gravelous, ouais, les Gravelous.
Les Gravelous, pardon.
Les Gravelous du côté de Pescadoire, domaine viticole tenu par Hervé Fabreau, qui nous a permis de découvrir 4 cuvées de grande qualité et qui montrent une belle palette des aromatiques et des profils qu'on peut avoir au travers du cépage Malbec.
Alors, il ne vous aura pas échappé que c'est le numéro de novembre-décembre, donc on l'a dit, c'est le dernier numéro de l'année, et que c'est bientôt Noël, et là aussi, les bonnes adresses pour les cadeaux de Noël, c'est dans Dirlot, avec cette fois, on reste évidemment lotois.
Oui, on l'avait finalement jamais fait, l'idée d'imaginer une sélection de produits qui puisse se faire autour de réalisation de savoir-faire 100% locaux, et c'est ce parti pris qui a été le nôtre pour essayer de mettre en avant plusieurs artisans et des exemples de réalisation qui peuvent faire plaisir à des messieurs, à des dames, à des enfants, tous âges, tous sexes, peu importe, mais des idées cadeaux 100% lot sélectionnées par la rédaction.
On parle du mouton givré hein, qui d'ailleurs a fait le salon Made in France, de la coutellerie Fabre,
Tout à fait, de Sacré Lotois qui est une marque qui s'est créée sur de l'illustration d'affiches et de textiles aujourd'hui et qui met en avant finalement au travers de l'image hein, et de l'illustration plutôt, différents lieux et sites majeurs du département. Donc de beaux ambassadeurs en termes de savoir-faire du département du Lot.
Et tout est à découvrir dans ce nouveau numéro de Dirlot, sans oublier la partie agenda avec les spectacles aussi à ne pas manquer dans
qui
le
s'enrichit, hein, en
ouais,
retour
ça
à
nous,
la culture.
Ça nous manquait quand même. Hein,
un petit peu, il y a une belle dynamique avec une énorme programmation de scénographes du côté de Saint-Céré à découvrir et il y a de quoi faire pour les fins d'année.
Et c'est clair. Et faites-vous plaisir aussi avec le numéro d'Irlot qui est chez votre marchand de journaux. Le prochain numéro, c'est le mois de janvier, donc il faut se dépêcher à découvrir ce numéro-là.
Il n'y a plus que 7 ou 8 semaines.
Et ça va vite. Hein. C'est de l'évasion en tout cas dans le Lot avec d'Irlot chez le marchand de journaux. Merci Vincent Besserve.
Merci beaucoup.
À noter, mardi 23 novembre, à l'espace des congrès Clément Marot à Cahors, l'Office du sport du Grand Cahors et le club de course à pied des extra-pédestres organisent une conférence sur les bienfaits de l'activité physique et du sport le mardi 23 novembre. Donc, elle sera animée par le professeur Yves Abitboul de la médecine du sport à l'hôpital de Cahors, avec l'unité de médecine et de l'exercice du sport. Au programme, l'importance de l'activité sportive pour rester en bonne santé, la bonne diététique du sportif, le traitement des maladies par l'activité physique individualisée. Les horaires, c'est à 19h. L'accueil, 19h30 la conférence et puis à 20h30 vous pourrez débattre avec les intervenants et puis si jamais vous avez encore des questions un peu plus privées que vous n'avez pas envie d'étaler en public comme ça, et bien il y a ces échanges qui se poursuivent autour du verre de l'amitié à 21h. C'est ouvert à tous et c'est donc le mardi 23 novembre à l'espace congrès de Clément Marot. Et puis à noter une date aussi également qui est organisée par l'UDAF, c'est le forum laïcité qui va se dérouler le 7 décembre de 13h30 à 18h à l'amphithéâtre du centre universitaire Maurice Faure, en présentiel et sur inscription, avec pas mal de choses, pas mal d'intervenants également. La préfecture du Lot sera là avec le secrétaire général, il y aura la CAF du Lot, la DRETS, que l'on appelle la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. On parlera d'appréhender les faits religieux et la laïcité en situation professionnelle, le principe de la laïcité et ses implications. À 16h30, il y a une table ronde sur la présentation l'action des initiatives locales et projections, diagnostics et perspectives sur la laïcité. Donc c'est à noter, c'est le 7 décembre et puis CFM Cahors sera là évidemment pendant l'après-midi. On fera donc nos émissions en direct depuis là-bas avec les intervenants et on parlera bien sûr de laïcité. Voilà, 7 décembre, hein, on aura le temps d'en reparler bien évidemment dans le mag sur CFM Cahors. Mag qui est terminé pour aujourd'hui et qui revient tout à l'heure à 17h pour la rediffusion et voire même à 21h30 et aussi en podcast sur cfmradio.fr. Vous restez avec nous, on passe l'après-midi ensemble bien entendu avec l'Esprit Rock et c'est dans un instant le journal.